touch my soul again.
Radio G 101.5 FM.
Heures sur Radio G 101.5. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue à ce nouveau rendez-vous pour cette émission Assiette pour Trois. Cette émission est préparée et animée par les Amapiens du Maine-et-Loire. Ivolic, moi-même, je suis à l'animation et Philippe de la MAP des Gauguins d'Ulysse est à la technique. Le thème d'aujourd'hui, les légumes secs. Pour en parler et vous les faire découvrir et redécouvrir et aimer, surtout aimer, deux invités, Philippe Thomas et Bruno Couder.
Bonjour.
Bonjour.
Donc nous avons aujourd'hui les légumes secs dans l'assiette. Et on va peut-être commencer par toi, Philippe, ou Bruno, de toute façon tu vas intervenir quand tu veux sur ce thème-là. Par la production des légumes secs, Bruno étant lui plus dans les préparations, la cuisine, etc.
Dans leur utilisation.
Dans leur utilisation, voilà. Donc Philippe, présente un peu, s'il te plaît, ta production.
Alors, Philippe Thomas, je fais partie d'un GAEC à trois associés sur Denzé-Soudoué. On produit sur la ferme des céréales, des oléagineux, du tournesol, etc. Mais aussi des légumes secs. Et parmi les légumes secs, on fait du haricot, de la lentille et du pois chiche.
Ah, tout à fait.
Donc toute la production est en agriculture biologique. Les légumes secs, enfin, les haricots sont sur la ferme depuis plus de 20 ans. Les lentilles, ça fait 7-8 ans. Et les pois chiches, depuis 2 ans.
Et c'est une production que tu destines à la MAP ou aux AMAP ou...
Donc le gros de la vente, c'est une vente détail aux Amapiens. À la ferme, et puis une petite partie sur la restauration collective et les magasins de proximité.
D'accord. Et donc aussi, tu es aussi paysan boulanger, donc tu fais aussi un peu de transformation avec tes...
Avec mes collègues, on fait de la transformation, on fait de la farine, on fait du pain. On fait aussi beaucoup de ventes détail sur d'autres produits comme la farine de sarrasin, les pommes de terre.
Oui, mais t'as un pain particulier, là, t'as un pain que t'appelles...
Alors, on a un pain aux trois farines où on intègre de la farine de lentilles, voilà. Pour un petit 20%.
Un petit 20%, et le reste, c'est quoi, alors?
Après, il y a de la farine de sarrasin et de la farine de blé.
Voilà.
Dedans.
Bon, je serais presque tenté de demander à Bruno qu'est-ce qu'il mettrait dessus comme petite préparation, mais c'est non,
d'abord,
un petit peu vite.
Oui.
Hein.
D'abord, alors, le pain comme ça, c'est délicieux. Déjà, ouais. En tartine, alors quotidiennement. Hein. Mais alors, en plus, si on met dessus une petite mayonnaise de haricots blancs ou de pois chiches, voilà, on peut mettre légumes secs sur légumes secs. Alors, ouais. Ça, c'est un peu la particularité de mon travail. Je suis cuisinier et formateur, ouais. Et co-auteur d'un livre sur les légumes secs aux éditions des presses de l'École de la Haute Santé Publique. Ça, ouais. Et donc, moi, mon quotidien, c'est en part... Enfin, mon quotidien, oui, beaucoup. Mon quotidien concerne le fait de faire manger des légumes secs et d'en manger moi-même.
Voilà, et d'apprendre aux gens à en manger.
Et d'apprendre aux gens à manger, oui.
Ouais. Et alors, dans la production, tu as choisi comment ces légumes secs, c'était venu... parce que tu fais des céréales, tu fais des pommes de terre, tu fais regarde, du lin... Quinoa, millet, oui, ça fait quand même un sacré.
Les légumes secs, enfin les légumineuses, parce que c'est le genre de plantes, sont intéressantes dans notre rotation de culture, puisque c'est une plante qui fixe l'azote de l'air par l'intermédiaire de bactéries, enfin, au niveau des racines.
Ah, tu dis que c'est dans le sol, en fait.
Dans
l'azote,
le sol.
L'azote dans le sol, oui.
Mais l'air c'est l'azote de l'air,
ah,
qui circule aussi dans le sol. Et donc, il y a une fixation de l'azote qui n'est pas le cas pour les céréales, qui n'est pas le cas de quasiment toutes les autres cultures en dehors des légumineuses. Et Donc nous, c'était très intéressant d'intégrer les légumineuses dans nos rotations pour un équilibre de culture, puisqu'en agriculture biologique, on n'a pas... On n'a pas de moyens de lutte sur les maladies, on n'a pas des moyens énormes sur les fumures, et donc il nous faut des rotations qui permettent d'éviter tous ces problèmes-là.
Et les rotations, alors explique un peu comment la
rotation... Une rotation, ça veut dire que c'est une suite de cultures qu'on met sur la même terre et on va...
Sur la même parcelle.
Sur la même parcelle. Et donc, cette suite de cultures, il faut qu'elle soit assez différente, assez longue pour éviter les problèmes de maladies. Parce que les maladies sont souvent cantonnées à une seule espèce et donc elles se transmettent. Si on la met tous les ans à la même place... La maladie se transmet, se multiplie. Donc là, il faut changer les productions pour cela.
Oui, puis tu avais quand même l'histoire de la fixation de l'azote. Quand même,
l'histoire de la fixation de l'azote, donc d'enrichir les sols.
Mais d'une façon naturelle.
De façon naturelle, équilibrée. C'est tout un ensemble. Et c'était important de passer par les légumes secs. Mais en même temps,
j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu plus quand même sur la façon de ce que tu sèmes. Par exemple, je crois que c'est 3 ans, c'est ça? Ou non, c'est pas 3 ans?
Non.
6 ans, 7 ans? Non, c'est quoi la fréquence?
Alors, l'idée, c'est d'amener un légume sec qu'une fois tous les 5 ans.
Une fois tous les 5 ans, mais ton sol, quand tu mets de l'azote, alors c'est quoi? C'est de la luzerne, je crois, c'est ça que tu mets.
Alors, la luzerne est une légumineuse. La luzerne est une légumineuse, mais avec une destination fourragère pour l'élevage.
C'est ça que même on regrettait dans la présentation, de ne pas pouvoir nous digérer la luzerne.
Parce que la luzerne est une légumineuse
avec
des protéines très particulières qui sont vraiment très très bonnes, mais qui ne sont pas assimilables et pas utilisables telles quelles par l'homme.
Et donc tu mets de la luzerne et après donc c'est...
Donc on a une base de luzerne, mais on a aussi donc les haricots, les lentilles et les pois chiches qui sont aussi des légumineuses. La différence c'est qu'une luzerne c'est une plante qui pérenne, qui dure 4-5 ans, que les haricots, les lentilles et les pois chiches sont des cultures annuelles qu'il faut ressemer tous les ans.
C'est ça, oui, donc garder la... Oui, d'accord. Et toi, Bruno, donc tu travailles, explique un petit peu ton travail, d'où tu viens. Déjà, tu as été, je crois, tu as été restaurateur à Lyon.
Oui, c'est ça. Je suis un cuisinier, restaurateur à Lyon, une dizaine d'années. Un parcours après, un passage en restauration collective. Et puis ensuite, depuis maintenant une quinzaine d'années, je fais de la formation professionnelle pour adultes. Et dans ce cadre, aujourd'hui, j'interviens.
Oui, mais déjà, cuisinier à Lyon, c'était déjà quand même tu faisais des repas tout fait maison.
Voilà, alors déjà, mon activité de restauration, j'avais déjà ce choix, enfin que je continue d'une autre façon aujourd'hui, mais je faisais déjà des achats sur les marchés, j'achetais les produits locaux et je cuisinais tout, c'est-à-dire je faisais les entrées, les desserts, les plats, pas de congélateur, tout en produits frais. Sur une petite activité de restauration, pas un gros restaurant, une trentaine de couverts. Déjà, ça fait pas mal de travail tous les jours.
Tu étais tout seul là dans...
J'avais un apprenti ou une apprentie en cuisine et puis une personne en salle. On était au moins deux, trois, quatre les fins de semaine pour. Voilà. Mais pas une grosse boutique. Et puis ça me convenait bien. Moi, j'aime bien la proximité aussi. J'aime bien pouvoir discuter avec les gens. Donc, ça m'allait de pouvoir aller dans la salle.
Et le contact. Le lien avec les gens.
Que les gens puissent même éventuellement rentrer dans la cuisine, c'est quelque chose que j'aimais bien pouvoir faire.
Oui, d'accord.
Voilà. Et les légumes secs, c'est un sujet qui m'a passionné parce que travailler dessus pour écrire, être co-auteur, parce que je suis co-auteur dans cet ouvrage, travailler des recettes et puis s'intéresser à eux, ça m'a fait découvrir un monde que je connaissais les légumes secs pour une utilisation.
Et déjà au départ, à Lyon, là, tu t'occupais un petit peu, tu étais un peu préoccupé par les légumes secs ou non?
J'utilisais pour faire des cassoulets, par exemple. Je fais des cassoulets ou je les utilisais, mais de façon classique. D'accord. Ce qui a changé avec le livre, c'est que j'ai travaillé, je suis retourné sur les plats classiques et ça ne suffisait pas pour enfin ça suffisait pas et puis surtout c'était il y avait un intérêt à ouvrir. Et le projet du livre, c'était de réhabiliter les légumes secs au quotidien.
D'accord, mais quand tu as décidé d'ouvrir ce chemin-là, d'écrire des livres, etc., ou un livre, ou de te pencher dessus, tu avais quand même voyagé avant, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Tu as été promené un peu, tu as vu un peu comment...
Je me suis promené en Inde, enfin en Asie, dans différents pays. Je me suis promené en Amérique du Sud aussi. Et ça a été vraiment une ouverture. C'est-à-dire que ça m'a ouvert sur une autre façon de s'alimenter et du coup, une autre façon de cuisiner. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre, parce que je me suis intéressé aux légumes secs du monde entier, presque. Disons, à regarder un peu comment ça se passait, à regarder les cuisines du monde, et puis de faire des recettes qui soient des recettes qu'on... refaire des recettes que j'avais rencontrées, et puis être aussi créatif.
Ouais, ouais,
et voilà. Donc, ça a été une belle aventure.
Des nouvelles saveurs, en plus des mélanges, des épices, des genres de choses
comme
ça.
Des mélanges, les cuisines du monde, c'est beaucoup d'épices avec les légumes secs, parce que le légume sec, moi je l'appelle le porteur de parfum. C'est-à-dire que le légume sec, il va prendre les parfums. Et si on lui porte des épices, si on lui amène une base aromatique, très rapidement il va s'en imprégner, il va le restituer sous une forme nourrissante. Et ce qu'on aime quand on mange, enfin moi, quand je passe à table, j'ai besoin de quelque chose qui me nourrisse, ça c'est l'alimentation quotidienne. Mais cette nourriture, il faut qu'elle soit parfumée. Voilà.
Et toi Philippe, alors dans ta production de légumes secs, donc tu mélanges déjà, parce que tu fais quand même des blés, plusieurs blés, si je me souviens bien, j'étais allé une porte ouverte chez toi. Les grands qui soutiennent les petits, hein, il n'y avait pas un peu de ça, ou ça ne se couche pas
C'est pas tout à fait ça. Enfin, sur les blés, on fait des mélanges de variétés pour avoir un équilibre après à la panification. Aujourd'hui, les meuniers travaillent rarement avec des variétés pures, et ils font des mélanges pour avoir un équilibre technique. Enfin, nous, on a choisi de faire le mélange dans le champ parce que dans chaque variété, il y a des différences de sensibilité à certaines maladies. Donc,
c'est surtout pour les maladies, ouais,
c'est beaucoup plus pour un meilleur équilibre au niveau maladie. Enfin, et puis après, il y a aussi la qualité technique. Ça permet, suivant les saisons, suivant les années, d'avoir une régularité pour la transformation.
Et tes lentilles, alors, parce que si j'ai bien compris, les lentilles, c'est pas si simple que ça de cultiver.
Parmi les légumes secs, donc les haricots, ça on connaît bien en Anjou, en plus on est dans une production assez vieille de haricots dans toute la vallée de la Loire. La lentille, j'ai pas fait de recherche, mais on en voit très peu. Et c'est une plante très capricieuse.
Ouais, c'est ça que je voulais que tu racontes un peu. Là, parce que...
Pour la semer, ça se passe très très bien. Elle se développe très très bien.
Tu la sèmes toute seule ?
Moi, on la sème actuellement toute seule. Ouais. Toute seule, oui. On ne fait pas d'association. On la sème en général au mois de février, à peu près. Et puis arrive la floraison, ça va bientôt se passer, on arrive fin mai, elle va fleurir fin mai, début juin, et puis, pour une raison difficile, enfin, que je n'ai pas encore cernée, et ça fait qu'on a 5 ans de recul sur la, 5-6 ans de recul sur la lentille. Je sais pas pourquoi, certaines années on a des très bonnes productions, et puis là, on sort de 2 années catastrophiques au niveau production. Et parmi les échos...
Ça fait un peu la veine du débutant, c'est-à-dire dès que tu commences, ça marche
très, très bien.
Très fort, très fort.
Ouais, Alors, c'est très compliqué. Alors, c'est une graine qu'on aime beaucoup avoir sur la ferme. Par contre, on aimerait bien qu'elle soit plus régulière au niveau production et on ne sait pas pourquoi.
Pourquoi ça se...
Le dernier souvenir, c'est la récolte de l'année dernière. On a eu des magnifiques fleurs, une très belle floraison. Et puis, en fait, on s'est aperçu au moment de la récolte que les gousses, c'est des petites gousses, comme une petite gousse à petits pois, mais où il n'y a que 2 graines. Et puis, il n'y avait pas de graines dans cette gousse.
Ah ouais.
Alors, on a un problème de pollinisation, ça c'est sûr, mais pourquoi ? pourquoi certaines années on a une superbe pollinisation et pourquoi là depuis deux années à suivre qu'on était diamétralement opposés, c'est-à-dire que il y a deux ans le printemps était sec, donc elles ont fleuri en conditions très sèches. On n'a pas eu de production. Et l'année dernière, elles ont fleuri avec le mois de juin qu'on a eu l'année dernière, c'est-à-dire très humide. Et on n'a pas eu de production non plus. Bon, voilà. On a une troisième année. On ne sait pas ce que ça va faire. Mais la lentille semble très difficile. Après, le pois chiche, on est encore dans la veine du débutant. C'est-à-dire que c'est une deuxième année. On verra bien.
Bon, on va faire une petite pause musicale de quelques instants parce que, quand même.
Say, have you seen the karaoke? It's on a folk solo with vodka. It has a little bit of new rhythm, a blue rhythm, but time. It has a meter that is tricky, a bit of wicked like a wiki. But when you dance with a new lover, there's true love in the rhyme.
Donc c'était le groupe Little Boxon. Et maintenant nous reprenons la discussion avec Philippe et Bruno. Donc Philippe, on parlait des lentilles. Alors lentilles, c'est de toute façon un légume. Tu disais, c'est drôle parce que tu dis que c'est un légume qui est pas facile à... qui n'est pas facile à cultiver, sauf qu'il n'est pas cher. Ça, c'est, voilà.
Oui.
Et des gars comme Bruno, ben, le Bruno, il se dit, ben, moi, les lentilles, j'aime bien, je te mixe ça, tu utilises ça, vas-y, explique-nous un peu.
Ben, les lentilles, comme le haricot, comme le pois chiche, hein, j'allais dire, comme le pois cassé et la fève, parce que si on veut parler d'une famille, il faut parler des cinq légumes secs principaux qu'on mange.
Redis les cinq. C'est...
Alors, légumes, lentilles, alors que ce soit la lentille verte, chez Philippe, ou les autres lentilles, on a de la corail, lentille noire, etc. Bon, à côté, on a la famille des haricots, donc haricots rouges, haricots blancs, tarbelles, soissons, etc. La famille des. Il y a les fèves. Alors, fèves, c'est, on les trouve
quand
on
tu dis tarbelles, soissons, ça veut dire que ça a quand même ça une localisation.
C'est une localisation. D'accord. Oui, les haricots, souvent, ont pris. Enfin, leur histoire géographique, c'est lié. Et du coup, on a une forme souvent différente aussi.
Oui.
Ah, une texture, voilà.
D'accord.
Et puis, donc, on a les, donc, la fève, le pois cassé.
Le pois cassé.
Et le pois chiche. Là, on a deux pois. Des pois.
Voilà. Donc ça fait 5 espèces.
Ça fait 5 que l'on va consommer dans l'alimentation, j'allais dire, et qu'on peut consommer assez facilement en France parce que on va les retrouver les uns et les autres.
Ouais.
Voilà. Donc si on veut à partir de là cuisiner, et l'intérêt c'est de les remettre dans l'alimentation au quotidien. Alors sous différentes formes. Je vais arriver sur les formes, mais peut-être expliquer au départ, enfin avant, pourquoi c'est intéressant de les consommer très souvent. Ils sont riches en fibres. Donc ça, c'est une chose que l'on trouve, manger 5 fruits et légumes, manger des fibres, on en a beaucoup dans les légumes secs.
Tu veux dire qu'il faut qu'on mange 5 fruits secs, non tu...
Non, mais on peut manger 5 légumes secs, 5 légumes secs. Ça m'arrive de faire des repas, j'en parlerai un peu, mais je fais des repas où on mange des légumes secs de l'entrée au dessert. Oui.
Ah oui, donc on peut manger du... Ah oui, c'est bien ça.
On peut les manger sous la forme apéritive, sous la forme de salade, sous la forme de soupe, sous la forme de petites tartinades.
D'accord.
Et puis.
Et donc, quand tu arrives au dessert, c'est quand même du sucré.
Alors quand tu arrives au dessert, tu arrives sur du sucré. Donc, tu arrives sur une lentille confite, par exemple. Hein, façon lentille verte confite avec du gingembre.
Bon, bah,
tu vas sur des gâteaux comme le gâteau haricolat, gâteau haricot chocolat ou gâteau lentille avec du citron. Enfin, on a mis dans le livre quelques gâteaux et depuis, on en a fait peut-être 10 ou 15 différents. Et ils se prêtent tous très, très bien. à leur cuisine et le fait, enfin à la cuisine et le fait de les associer comme ça sous des formes différentes. Donc un gâteau, c'est une préparation de légumes secs cuits mixé avec du sucre. Et ensuite, on a une préparation sucrée que l'on va travailler, comme j'allais dire, un autre gâteau, et on va mettre des œufs, du beurre,
C'est ça. Bon.
Et on va parfumer.
Et ça sert quand même de... J'ai un peu feuilleté le bouquin, là, et il y a des mayonnaises aussi, il y a des choses qui font, ça remplace peut-être pas l'huile, mais je ne sais pas comment
Pratiquement, en grande partie, une mayonnaise, c'est 95% d'huile, une mayonnaise aux légumes secs, c'est 25% d'huile. Donc il y a 50% de légumes secs, en haricots blancs, pois chiches, parce que c'est ceux qui donnent la couleur le plus proche, si on veut une mayonnaise blanche, enfin jaune, et puis ensuite c'est 25% d'échalotes, moutarde, vinaigre, pour l'aromate, pour aromatiser. Les légumes secs, il faut leur apporter du parfum. C'est très très important. Par contre, à partir du moment où on les a parfumés, voilà, c'est, je dirais, que du bonheur à manger, quoi. Ouais. Et pourtant, ils ont eu très longtemps mauvaise réputation.
Oui, c'est ça. C'est quand même un plat du pauvre.
C'est ça.
Moi, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est le dernier. Je disais ça là, le faillot là. C'est la dernière denrée dans les bateaux, et le faillot, est-ce que ça vient de là?
Quand on parle de la fin des haricots, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que ça à manger. Mais en même temps, quand on dit qu'il ne reste plus que ça, ça veut dire que c'est aussi le sauveteur. Il y a des histoires près de Soissons, on parle de population qui avait fui, qui est revenue, il y avait la peste, qui est revenue, qui avait des haricots dans ses poches quand il est parti, il a fait tomber les haricots dans les champs, et les haricots ont poussé, quand ils sont rentrés, ils avaient de quoi manger. Donc il y a aussi beaucoup de petites histoires et de grandes histoires autour.
Tu avais quand même aussi, raconte un peu le cocopédie, le petit dieu amérindien qui...
C'est ça. Le petit dieu amérindien qui, dans sa bosse, a le haricot, le maïs et puis la graine de courge, parce que les trois associés vont très bien se marier pour une diversité.
Parle rapidement de l'association des trois, comment ça se passe ?
Alors, on a le maïs qui fait la tige, le haricot qui grimpe autour de la tige, et la courge qui va couvrir le sol, donc qui va protéger le sol, qui va garder l'humidité. Et puis, le haricot, lui, va grimper, il va chercher la lumière. Ouais. Et le maïs, il a fait sa tige et lui, il va porter. Les trois associés ensemble, on va se retrouver aussi avec une alimentation équilibrée, puisqu'on va avoir un légume qu'on va pouvoir associer, mais on va avoir maïs, c'est-à-dire céréales et légumes secs. Donc quand on associe céréales et légumes secs, on a une quantité de protéines qui sont, tous les végétariens le savent, vont pouvoir faire des équivalences ou pratiquement des équivalences avec les protéines animales.
Voilà. D'accord. Et ça veut dire que céréales et légumineuses, en fait, tu as une alimentation quasi complète.
C'est ça. On les associe dans un même repas ou même sur des repas différents. Mais il y a beaucoup de plats, les grands plats de la cuisine du monde. Prenez le dal indien, c'est du riz et des lentilles. Le chili, c'est des haricots rouges avec du maïs, il y a un peu de riz. La feijoada au Brésil, c'est un peu la même histoire. Quand on prend le couscous, c'est du blé, pardon. Avec du pois chiche et des légumes.
Couscous, c'est du blé avec du pois chiche.
Et oui.
Mais c'est des choses qui paraissent, tu vois, quand tu le dis, ça paraît important, alors que c'est dans notre esprit, c'est un peu insignifiant pour nous les auditeurs, je ne sais pas s'ils en pensent.
Il y a certainement une chose qui s'est passée dans les 50 dernières années, c'est-à-dire qu'on s'est mis à manger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de viande, et la viande a envahi ces plats, et donc on a fini par retenir des plats très riches en viande. On voit un couscous, on voit plein de viandes différentes avec finalement un peu de pois chiche. Alors que ce n'était pas du tout le cas au départ. Ouais. Et c'est vrai pour tous ces grands plats cuisinés du monde.
Et toi, Philippe, tu disais que tu avais beaucoup travaillé depuis, avec le bouquin de Bruno, qu'il a fait en co-édition avec...
Co-écriture avec Gilles Davaux. Et puis un médecin, Daniel Mislich, et nutritionniste, Caroline Rio. Voilà.
Et toi, tu disais que c'était...
Moi, j'ai rencontré Bruno il y a, je ne sais plus, 4-5 ans.
4-5 ans, oui.
On s'est rencontrés parce que moi, en tant que producteur, Bruno est venu me contacter. Et moi, j'ai découvert vraiment la cuisine des haricots, parce que j'en étais au basique. Ce qu'expliquait Bruno, c'est un plat de haricots plutôt blanc et avec un canard, avec
des
saucisses.
Gigot,
ce
serait dans mon
ou dans un gigot, oui, le gigot de Pâques avec les flageolets. Bon, et puis moi j'ai vraiment découvert ça, ouais, que bah, en fait on pouvait faire plein plein de choses. Et aujourd'hui, je dirais que je consomme plus de légumes secs sous forme de préparation, de petites salades, de pâtes à tartiner, de choses comme ça, que le haricot tel que.
Et par rapport aux AMAP, est-ce que tu trouves que les AMAPiens, par exemple, c'est des gens qui de plus en plus consomment des légumes secs comme ça? J'ai l'impression quand même que nous, normalement, en tant qu'AMAPiens, que je m'y fais, moi, que je.
Mais tout au moins, ils ont un autre regard aujourd'hui, voilà. Oui, voilà, ils ont un autre regard. Ça m'est arrivé justement de prendre le livre de recettes, d'amener des petites préparations à goûter. J'ai même fait une pâte à tartiner à base de
chocolat
et
ben
de
voilà.
Haricots rouges sur une base de recettes du livre à Bruno. Qui se fait, qui coûte vraiment pas cher, où il n'y a pas de matière grasse, ou très peu de matière grasse. Les gosses, on leur dit pas au départ qu'il y a du haricot.
Peut-être que si tu leur disais, ils aimeraient.
Non, beaucoup. Mais si, parce
c'est vrai que dans l'esprit.
Mais voilà, c'est un bonheur de les voir manger une tartine avec une pâte à tartiner où il n'y a pas une matière grasse, où il y a du haricot rouge et.
Pour expliquer ça, il y a une chose, c'est le fait de montrer que entre un haricot rouge et une châtaigne, on peut imaginer facilement la châtaigne sucrée et son côté sucré et onctueux.
Oui, marron,
eh bien, voilà le marron. Eh bien, le haricot quand il est sucré, on a la même impression en bouche. Oui. Que
non,
la
attends,
châtaigne
Bruno,
sucrée.
Il va falloir qu'on fasse peut-être pas une nouvelle émission, mais peut-être une rencontre gustative ou dégustative.
Autour. Mais c'est voilà. Sûr, c'est ça qui est c'est vraiment très surprenant et c'est quelque chose qu'on n'a pas assez exploité. Sauf par exemple les Japonais qui font les dorayaki, ces préparations.
Bah, peut-être qu'il faut qu'on perde nos préjugés par rapport à la viande, machin, etc.
Certainement.
D'ailleurs, faudrait que tu nous parles un petit peu parce qu'on a la mission tourne de ton boulot dans les.
Dans les cantines.
Dans les cantines, ta formation de cuistot de collectivité.
J'interviens dans un dispositif qui s'appelle Plaisir à la cantine auprès des cuisiniers de collectivité et qui vise à introduire donc du végétal en plus grande quantité et donc de revisiter un certain nombre d'idées reçues que l'on a en restauration collective qui sont encore très très fortes puisqu'on mange beaucoup de protéines animales. La viande reste le cœur du repas et il ne faut pas non plus. C'est juste qu'on pourrait de temps en temps, et c'est ce qui est proposé, c'est de temps en temps se décaler et faire un repas sans viande.
Sans viande, oui.
Mais pour ça, les cuisiniers n'ont pas été formés. Quand il n'y a pas de viande, on ne sait pas quoi faire. Et
la formation avant, en fait, tourne beaucoup sur ça.
Beaucoup. Ouais. La cuisine classique, la cuisine traditionnelle tourne beaucoup autour des protéines animales, les viandes, les poissons, les volailles, etc., les œufs. Il ne s'agit pas de les enlever complètement, il s'agit d'en enlever de temps en temps et d'en mettre moins en quantité.
Et en nutritionnel, de toute façon, ça fonctionne.
Et nutritionnellement, ça fonctionne et ça a un intérêt. On est ici entre amapiens ou presque amapiens, parce que j'ai dit que moi, je n'étais pas complètement
amapien. De toute façon, tu prendras ta carte avant de partir.
Mais en tout cas, ça va favoriser aussi les productions locales. Parce que si on mange plus de légumes secs, de céréales, et si on produit une viande de meilleure qualité, on en mange moins, mais de meilleure qualité, on va s'y retrouver aussi parce que on va redistribuer les cartes
donc,
du territoire.
Au niveau économique, en plus, tu vas
il y a un intérêt.
Il y a un intérêt. Tu disais que dans la préparation, que tu pouvais faire 4 repas, par exemple, par semaine avec de la viande ou des choses pour ne pas brusquer les choses et pour économiser.
Et faire un repas tous les 15 jours ou toutes les semaines qui soit sans viande et dans lequel on puisse, par exemple, utiliser un peu de protéines animales sous forme d'œufs ou de produits laitiers, mais dans lequel la viande n'apparaît pas telle que. Et on va avoir un plat et on peut faire d'excellents plats à partir de haricots et puis ou des voilà, on a des formes de quiche, tarte, tourte, gratin, crumble, dans lesquels ils se prêtent très très bien. Ouais. Et c'est ces plats-là qui vont plaire aux mangeurs parce que le mangeur, il mange un format de plat, quelque chose qui lui parle, il y a une culture derrière le plat. Et il ne va pas manger un paquet de haricots dans l'assiette, ça ne va pas faire vraiment envie.
Non, il va falloir qu'il soit...
Il faut qu'il soit préparé. Et donc, c'est ce que je fais beaucoup en cuisine. D'accord. J'apprends aux cuisinières à travailler là-dessus.
Écoutez, les chers amis, on arrive quasiment au terme de cette... Oh, c'est intéressant, mais je salive un peu là. Je crois qu'on recommencera cette affaire. Et donc, la prochaine émission d'Assiette pour Trois, ce sera le lundi 5 juin à 13h, sur la même antenne. Hein. L'émission sera, le thème, ce sera éducation et nourriture. Je crois qu'on va aussi parler de cantine ou genre de choses comme ça, avec présenté par Alain Le Gall. Et vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de Radio G 101.5 et si vous le souhaitez, les enregistrer en podcast façon conserve, la taille du pot, je crois que c'est MP3. Je pense que c'est exactement comme pot. Mais bon. Donc de nombreux renseignements à propos des AMAP.